Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à délaisser contrat de nucléaire civil, soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore, on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour hyper et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre et les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappes fêlées pour 110 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger dans ses mines d'uranium, contamine les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de moniques et des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppent, que le monde entier attend qu'on démantèle, il faut le PR et les ouvriers staffent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance, l'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France.
Alors, vous écoutiez Sortir du nucléaire de Duval Messé. Vous aurez le plaisir d'écouter la fin de la chanson dans quelques minutes. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec l'équipe de En bas à gauche. Et cette chanson, Sortir du nucléaire, annonçait notre prochain thème qui, pour donner suite aux mobilisations de la fin de semaine, nous avons choisi de parler du nucléaire et des castors. Que sont les castors? Ce sont les conteneurs de déchets de très haute activité, donc des déchets radioactifs qui ont transité en fin de semaine, qui sont partis en fait vendredi dernier de La Hague en France pour arriver malgré tout à destination le lundi dans le nord de l'Allemagne. Donc ce convoi qu'on appelle aussi le train de la mort était constitué de 11 castors qui transportaient 123 tonnes. Alors ça c'est selon les médias allemands et français parce que selon le Devoir c'est 154 tonnes, donc plus de 100 tonnes, disons, de déchets retraités de l'usine de La Hague en Normandie. C'est une usine qui est dirigée par la multinationale Areva, la ex-Cogema. Alors, tout au long du trajet, tant en France qu'en Allemagne, des manifestants et manifestantes ont tenté de bloquer le convoi. Certains se sont enchaînés à des rails, d'autres ont tenté de saboter la voie ferrée, tandis que des milliers d'autres organisaient des sit-ins près des rails ou en fait sur les voies ferrées même. Le samedi à Dannenberg, c'est dans le nord de l'Allemagne, ce sont 50 000 manifestants qui se sont rassemblés. Alors, il y avait 17 000 policiers présents qui, bien sûr, ont fait usage de leurs matraques, gaz lacrymogène, canons à eau, etc., pour déloger les manifestants. Malgré tout, les manifestations ont toutefois réussi à retarder de plus de 10 heures le surnommé « train de l'enfer », c'est-à-dire le convoi des 11 castors. Alors, ce qu'il faut savoir et qui était pas nécessairement dit dans les journaux en fin de semaine, c'est que ce convoi, c'est pas le premier. En fait, depuis 95, ce sont 12 convois de castors qui ont été acheminés de la France vers Gorleben, au nord de l'Allemagne, où les déchets nucléaires sont stockés sous un dôme de sel et où des fuites radioactives ont eu lieu par le passé, d'où la grogne populaire. Alors, à ce sujet, nous proposons d'écouter un petit montage audio qui commence par une entrevue réalisée en direct le samedi matin à Berg. Alors, lorsque les manifestants sont regroupés pour attendre le passage du convoi de déchets radioactifs, c'est une entrevue qui a été traduite par Son en lutte et qui sera suivie d'une entrevue réalisée par Canal Sud, une radio alternative française, avec Laura Hameau du réseau Sortir du nucléaire. Une entrevue qui a été réalisée quelques jours avant les grandes mobilisations et qui nous explique un peu quels sont les enjeux autour du convoi de déchets radioactifs.
On se situe à la frontière avec la France dans une petite ville qui s'appelle Berg. Alors que se passe-t-il à Berg? Il y a sur environ 500 mètres de gens qui bloquent la voie de chemin de fer. La police et la presse sont sur place. On est par ailleurs un peu avant le sud de la gare, en fin de cortège de manifestation. Alors vous êtes assis sur l'itinéraire du transport nucléaire entre la France et l'Allemagne. Combien êtes-vous environ? C'est difficile à dire, je ne vois qu'une petite partie puisque la police est partout. Je dirais qu'il y a des gens sur 500 mètres dans une direction et sur une centaine de mètres dans l'autre direction. En tous les cas, il y a du monde sur la voie de chemin de fer pour...
Okay. Alors, en fait, c'est un transport de déchets vitrifiés allemands qui viennent de l'usine de retraitement de La Hague et qui vont être acheminés jusqu'au site de Gorleben. Alors, pourquoi, en fait, ces déchets viennent-ils de La Hague ? Il faut revenir un peu en avance. Donc, en France, 78% de l'électricité est d'origine nucléaire. Cette production d'électricité nucléaire génère une quantité énorme de déchets dont l'industrie nucléaire n'a jamais su que faire et ne sait toujours pas quoi faire. En 1965, les autorités françaises ont décidé d'ouvrir une usine de retraitement du combustible irradié à La Hague, dans la Manche. De nombreux pays, pendant des années, ont envoyé leurs déchets nucléaires, donc leur combustible usé, dans cette usine de retraitement de La Hague.
Retraitement, ça veut dire quoi ?
Alors, retraiter les déchets, en fait, c'est une opération qui consiste à séparer les différents radioéléments. Donc, on sépare l'uranium de retraitement, ça c'est 95 à 96%, ensuite du plutonium, 1 à 2%, et 3 à 4% de déchets de très haute activité radioactive. Et donc, c'est ces 3 à 4% de déchets très hautement radioactifs qu'on fond ensuite dans du verre, et c'est ça qu'on appelle les déchets vitrifiés. Ces déchets vitrifiés sont ensuite déposés dans des containers qu'on appelle canisters, qui sont eux-mêmes ensuite déposés dans de plus gros containers qui font environ 1000 tonnes, qu'on appelle des castors. Et donc ces castors, c'est les wagons qu'on va pouvoir voir défiler par le train. Ce transport contient 11 castors.
Et ces castors vont où ?
Alors, ils vont aller jusqu'au site de Gorleben en Allemagne. Alors, le site de Gorleben en Allemagne, c'est un site d'entreposage intermédiaire et les autorités allemandes souhaiteraient qu'ensuite ces déchets soient stockés dans un site d'enfouissement creusé dans une mine de sel. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, cette mine de sel, ce site, n'est pas un bon site de stockage. C'est le cas de La Hague. La Hague n'est pas un bon site de stockage, mais Gorleben ne l'est pas non plus. Et c'est pour ça que le réseau de sortir du nucléaire et les antinucléaires allemands se mobilisent contre ce transport.
C'est quoi la différence entre un bon site de stockage et un mauvais site de stockage ?
Clairement, aujourd'hui, il n'existe aucun bon site de stockage. Il n'existe aucune solution technique pour gérer les déchets nucléaires. Et c'est bien ça le problème. On continue de produire aveuglément des quantités, des tonnes et des tonnes de déchets chaque année, alors qu'aujourd'hui, on ne sait techniquement pas quoi en faire.
Et quand ils ne vont pas à Gorleben, les déchets nucléaires, ils vont où ?
Eh bien, globalement, aujourd'hui, ils sont stockés dans des sites d'entreposage intermédiaire parce qu'on ne sait pas bien quoi en faire. Ou alors, on les stocke dans des sites qui sont soi-disant des sites définitifs, par exemple le centre de stockage de la Manche, le CSM, qui a été géré pendant des années par l'Andra, a été présenté comme un site de stockage sûr et définitif. Or, il a été fermé, mis en surveillance aujourd'hui, les déchets sont stockés, et on s'aperçoit que les fûts dans lesquels les déchets étaient conditionnés ont rouillé, se sont ouverts, les sols se sont affaissés, et la nappe phréatique qui est en dessous, parce qu'on a construit ce centre de stockage au-dessus d'une nappe phréatique, est complètement contaminée, et ça contamine tous les cours d'eau de cette partie de la Manche. En Europe, on produit une électricité d'origine nucléaire. Comme on ne sait pas quoi faire de nos déchets, on les envoie le plus loin possible de chez nous. Et si possible, dans des pays qui acceptent sans grandes conditions de recevoir ces déchets. Par exemple, pour l'uranium de retraitement, on les a envoyés dans des plaines en Sibérie, où ils étaient stockés à ciel ouvert.
Est-ce que là, on y aurait moyen de se passer du nucléaire avec la consommation d'électricité actuelle de la planète, ou est-ce que...
Ah ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, notre revendication derrière toute cette mobilisation par rapport à ce transport, c'est que puisqu'il n'existe aucune solution pour gérer les déchets nucléaires, il faut dès maintenant arrêter d'en produire et sortir du nucléaire. Sortir du nucléaire, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Déjà, il faut commencer par réduire massivement notre consommation d'énergie et puis ensuite, l'énergie qu'on consomme, la produire par des sources d'énergie renouvelable. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas une bonne solution. Il ne faut pas faire du tout éolien, il ne faut pas faire du tout solaire, mais il faut développer un mix énergétique. Le réseau Sortir du Nucléaire se mobilise. On est vraiment là pour protester contre l'existence de ce convoi, pour protester contre les déchets, contre le nucléaire de manière globale, pour mettre en lumière l'impasse que constituent ces déchets, et puis aussi pour faire connaître l'existence de ce transport, parce que ce type de transport est complètement tenu secret. Et c'est ça qui n'est pas normal, parce que c'est un transport qui est très radioactif. À titre de comparaison, on a fait des calculs. C'est au moins deux fois plus de radioactivité que ce qui a pu être dégagé lors de l'accident de Tchernobyl, donc c'est énorme. Et le problème, c'est que les populations et les élus ne sont même pas informés qu'un tel convoi va passer à côté de chez eux.
Un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde, on serait condamné. Et d'autres plus lentement verront leur rein ne plus fonctionner, leur peau se décomposer, leurs os se désagréger. 26 avril 86, Tchernobyl a explosé. L'Europe est contaminée, l'URSS est ruinée. Les plantes, l'eau, les sols, l'air et les murs sont irradiés. Là-bas, les enfants monstres hurlent leur humanité. La structure atomique embarque et détraquante et son impact est invisible. Et nous concocte un paquet de tracas cliniques. On en mesure à peine les conséquences entraînent. On va compter encore des dégâts et pas qu'en Ukraine. Du césium 137 en Corse, des brebis difformes en Écosse. Et des milliers de gens qui carburent au Levothyrox. En PACA, tu sais, y'a tarpin de thyroïde en galère. De l'Hérault jusqu'au Mercantour, il n'y a pas que mon père. 60 000 tonnes de déchets par an. On enterre, les outils, les machines irradiées. On enterre, les combinaisons, les gants pollués. On enterre, plus de place à la hague, alors dans l'aube. Les abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, 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 petits enfants. Le seul pays au monde autant équipé nucléaire et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair. Pour le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
Alors, vous êtes à Radio Centre-Ville 102.3 FM à l'émission En bas à gauche. Vous venez d'entendre une chronique faite avec quelqu'un en direct de l'Europe sur un convoi de nucléaire qui a été malheureusement coupé par la trame automatique de publicité. Alors, on en est désolé. Pour faire un parallèle sur l'enjeu du nucléaire, à savoir que au Canada, il était question il n'y a pas longtemps de transporter sur toute la voie maritime des déchets nucléaires provenant de l'Ontario en bateau pour les amener jusqu'en Suède. Alors, c'est un dossier à suivre parce que c'est vraiment dangereux et important à savoir ce qui va se passer avec ça finalement. Aussi, un autre dossier où le nucléaire fait énormément de ravages, c'est dans l'exploitation minière. Alors, à savoir qu'à 3 heures au nord de Montréal, dans le coin de Mont-Laurier, il y a un projet de minière de radium qui est en fait qui veut s'ouvrir, qui va avoir énormément d'impact au niveau des écosystèmes par la radiation qui sort par les gaz et par l'extraction minière. Et on a le même type de projet qui veut s'ouvrir en ce moment dans le coin de cette île. Alors, c'est des dossiers qui sont vraiment importants, qui ont un impact socio-économique vraiment important, parfois grave, qui implique souvent le déplacement de villages entiers et la destruction des économies locales, et en plus d'une pollution qui va affecter les communautés pendant des années. Alors, c'est des dossiers à suivre qui sont très présents au Québec, donc à suivre l'extraction minière et le déplacement des déchets nucléaires au travers du Canada.